Alors je vais essayer de répondre à cette mission impossible. En effet, ce que nous appelons les pères de l'Église, ça commence avec la période apostolique, donc le premier siècle, et on a l'habitude de dire que ça finit avec Saint Bernard au XIe siècle. Donc, résumé en une heure, l'Eucharistie chez les pères de l'Église, c'est véritablement impossible. Alors vous me pardonnerez si je n'y parviens pas. Mais avant de donner donc un bref aperçu de la manière dont les pères de l'Église ont saisi le mystère de l'Eucharistie, il me semble nécessaire de rappeler que le Christ Jésus a institué l'Eucharistie au cours du dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples. Un repas qui n'était pas en fait le repas pascal proprement dit. Saint Jean précise que Jésus a célébré la scène avant la fête de la Pâque et qu'il est mort sur la croix à l'heure où les agneaux pour le repas pascal étaient immolés au temple. Jésus est justement le véritable agneau pascal qui ôte les péchés du monde. Si ce dernier repas de Jésus avec les disciples n'a pas été le repas pascal, c'est bien dans une ambiance pascale, en compagnie des 12, au cours d'un repas solennel, que Jésus a lié son Eucharistie à la fraction du pain et à la bénédiction de la coupe, telle que cela se pratiquait chez les Juifs. L'Eucharistie chez les pères s'enracine donc dans l'antique tradition pascale juive. Jésus a inscrit son action de grâce et son sacrifice rédempteur dans ce mémorial pascal qui actualisait les hauts faits du Seigneur d'Israël en faveur de son peuple, en particulier avec le souvenir de l'immolation de l'agneau pascal et donc de la sortie d'Égypte. Mais il faut savoir que cette Pâque de la sortie d'Égypte a des racines beaucoup plus anciennes. Donc les Juifs, avant leur sortie d'Égypte, avaient l'habitude d'une fête qui était la fête en fait des bergers, où on offrait la fête des bergers qui était célébrée au printemps et où on offrait en prémisse un agneau. Donc vous voyez, la tradition de l'Eucharistie chez les pères et puis dans la suite de la vie de l'Église s'enracine dans un tréfonds extrêmement profond et ancien. Il y a eu donc de longues préparations au cours desquelles les Juifs pratiquaient des prières d'action de grâce qui accompagnaient la fraction du pain. Jésus, quant à lui, inaugure un repas liturgique où il rend grâce à Dieu avant de rompre le pain et de donner la coupe à boire à ses disciples, actualisant par anticipation sa mort, son sacrifice sur la croix pour la rémission des péchés. Puis il invite les disciples à faire ceci en mémoire de lui, c'est-à-dire de rendre présent ce sacrifice tout au cours de l'histoire de l'Église. Lorsque nous célébrons la messe, il ne s'agit pas de célébrer un souvenir de cet événement, mais bien de rendre actuel ce sacrifice pour se nourrir du corps et du sang du Christ, puisqu'il a voulu être nourriture et boisson pour nous transmettre sa vie, la vie divine. Après cette introduction, je voudrais aborder maintenant l'Eucharistie directement chez les pères de l'Église. Alors, mission impossible, en effet, je ne peux pas, en 45 minutes, ratisser, si je puis ainsi parler, l'ensemble des pères de l'Église. Alors, je vais commencer par les pères, en prenant plusieurs exemples, mais évidemment, en ne traitant pas de tous les pères de l'Église, qui sont nombreux. Alors, tout d'abord, je voudrais m'intéresser à la période des pères apostoliques, c'est-à-dire les premiers, les tout premiers, du 1er siècle au 3e siècle, en gros. Et il y a un ouvrage du 1er siècle qui s'appelle « La Didaché ». Le titre complet, c'est « L'enseignement du Seigneur aux nations par les 12 apôtres ». Et ce texte, on en a quasi la certitude, a été rédigé entre 70 et 90. Vous voyez, c'est extrêmement ancien. D'ailleurs, vous allez voir, ce qui est quand même, j'allais dire, quasi troublant, c'est de voir la permanence de la foi en l'Eucharistie depuis l'origine, exprimée de manière différente, selon les uns et les autres, mais le contenu est absolument le même, même bien sûr, si il s'est précisé, la manière d'en parler s'est précisée au cours des âges. Donc ce texte de la Didaché est véritablement un texte charnière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, entre la tradition juive des bénédictions prononcées et établies dès le début de la tradition, et qui sont repris, ces textes de bénédiction appartenant à la tradition juive, sont repris en quelque sorte par ce qui va être la tradition chrétienne avec les toutes premières prières eucharistiques. On parle d'anaphores. En fait, ce sont les prières eucharistiques. Anaphores, c'est du grec, ça veut dire élévation. Ces premières prières sont absolument décalquées, en quelque sorte, sur les prières de bénédiction juive. Alors, je vais vous lire quelques passages de ces anaphores anciennes, enfin extrêmement anciennes, les toutes premières. Pour ce qui est de l'Eucharistie, je cite la Didaché, pour ce qui est de l'Eucharistie, rendez grâce ainsi. D'abord sur la coupe, nous te rendons grâce au notre Père pour la sainte vigne de David, ton serviteur. Tu nous l'as fait connaître par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Amen. Puis pour le pain rompu, nous te rendons grâce, ô notre Père, pour la vie et la connaissance que tu nous as accordée par Jésus, ton serviteur. Gloire à toi dans les siècles. Amen. Comme ce pain rompu, autrefois dispersé sur les collines, a été recueilli de manière à ne faire qu'un, rassemble ainsi ton Église des extrémités de la terre dans ton royaume. Oui, à toi, gloire et puissance par Jésus dans les siècles. Amen. Que personne ne mange ni ne boive de votre Eucharistie, si ce n'est les baptisés au nom du Seigneur. Aussi est-ce à propos que le Seigneur a dit « Ne donnez pas aux chiens les choses sacrées ». Et dans un autre passage, « Nous te rendons grâce, ô Père Saint, pour ton saint nom que tu as fait habiter en nos cœurs, pour la connaissance, la foi et l'immortalité que tu nous as accordées par Jésus, ton serviteur, gloire à toi dans les siècles. » Et encore un peu plus loin, « Souviens-toi, Seigneur, de délivrer ton Église de tout mal et de la parfaire dans ton amour. Rassemble des quatre vents l'Église que tu as sanctifiée dans le royaume que tu lui as préparé, car à toi la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Vienne ta grâce et que passe le monde. Hosanna au fils de David. Si quelqu'un est saint, qu'il vienne. S'il ne l'est pas, qu'il fasse pénitence. Maranatha. Laissez les prophètes prononcer l'eulogie à leur gré. » L'eulogie, c'est du grec, ça veut dire la bénédiction. Donc, nous sommes là devant des textes qui sont vraiment les tout premier des célébrations eucharistiques. Et puis une mention dans un autre passage de la Didaché sur le jour du Seigneur, ce dimanche qui aujourd'hui est devenu malheureusement pour beaucoup un jour banal, ce qu'il n'est absolument pas. Le jour du Seigneur, assemblez-vous pour la fraction du pain et l'Eucharistie après avoir d'abord confessé vos péchés pour que votre sacrifice soit pur. Mais que celui qui a un différend avec son compagnon ne se joigne pas à votre assemblée avant de s'être réconcilié, afin que votre sacrifice n'en s'ouvre pas de souillure. Ce sacrifice est bien, en effet, celui dont a parlé le Seigneur, qu'en tout lieu et en tout temps, on m'offre un sacrifice pur, car je suis un grand roi, dit le Seigneur, et merveilleux est mon nom chez les nations. Donc vous avez là, à travers ces textes, un aperçu de ce qu'ont été les célébrations des premières Eucharisties, où les premiers chrétiens avaient tout à fait conscience à chaque Eucharistie d'être en présence du Seigneur Jésus, puisque le pain consacré, le pain béni, devient corps du Christ et le vin son sang. Et ce sacrifice-là est bien sûr le sacrifice de l'Église, le mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur. Ce repas est sacré, il unit non seulement à Jésus, mais il crée en quelque sorte la communion ecclésiale, l'unité de tous les fidèles qui, en recevant le corps du Seigneur, deviennent son corps, lui dont il est la tête. Et c'est dans cette espérance que les fidèles annoncent en même temps le retour du Christ à la fin des temps. Vous voyez, dès le début de l'Église, tout y est déjà. Après ce témoignage du premier siècle, je voudrais maintenant m'intéresser quelques instants à un père de l'Église dont les catéchèses sont absolument d'actualité. Je regrette beaucoup qu'elles soient si peu connues. Il s'agit de Cyrille de Jérusalem. Nous avons les catéchèses, qu'on appelle les catéchèses mystagogiques, c'est-à-dire les enseignements. Il était évêque de Jérusalem et il formait les catéchumènes. Et son enseignement demeure tout à fait actuel. Alors, il y a dans ces catéchèses mystagogiques plusieurs chapitres qui sont consacrés justement à l'Eucharistie. Je vais vous citer. Vous allez voir à quel point c'est magnifique. Donc, Cyrille s'adresse ainsi à ceux qu'il catéchise. Vous avez donc vu le diacre donnant aux célébrants et aux presbytres de Dieu qui entourent l'autel l'eau pour se laver les mains. Il la leur donnait nullement en raison de la souillure corporelle. Ce n'est pas cela, car c'est sans souillure corporelle que nous sommes entrés dans l'Église au début de la cérémonie. Mais ce lavage des mains est un symbole du devoir qui nous incombe de nous purifier de toutes nos fautes et de tous nos manquements. Les mains sont en effet le symbole de l'action. En les lavant, nous suggérons nettement la pureté irréprochable des actions. Ainsi donc, le lavement des mains est le symbole de l'affranchissement du péché. Puis un peu plus loin, accueillez-vous les uns les autres, échangeons le baiser. Et puis, il explique, ne pense pas que ce baiser soit du même genre que ceux qu'échangent sur la place les amis ordinaires. Certes, non. Ce baiser n'est pas de ce genre. Il lie les âmes de mutuelle amitié et sollicite l'oubli de toute offense. Ce baiser signifie donc que les âmes se fondent ensemble et bannissent tout ressentiment. C'est ce qui faisait dire au Christ, « Si tu apportes ton présent à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton présent devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, viens offrir ton présent. » Ce baiser est donc une réconciliation et c'est pourquoi il est saint, comme le proclame saint Paul, « Échanger un saint baiser » et saint Pierre, « Un baiser de charité ». C'est le rite de la paix qui, après le concile, est apparu. Et moi, je suis très honoré de voir à quel point il disparaît aujourd'hui. Avec la fraction du pain, le rite du baiser de paix, c'est vraiment les deux rites les plus anciens qui caractérisent depuis l'origine l'Eucharistie. Et bon, j'ajoute en tant qu'évêque, je crois que si justement aujourd'hui il est souvent abandonné ce baiser de paix, c'est parce qu'il n'est pas expliqué. Si les prêtres, je me permets, il y a des prêtres ici, je me permets de le dire, suivaient ce que demande le missel romain, il est conseillé pour l'homélie, bien sûr, d'expliquer les textes de la parole de Dieu, mais aussi d'expliquer les rites. Dans quelle paroisse explique-t-on régulièrement les rites? Et c'est normal, finalement, que les fidèles soient, pardonnez-moi l'expression, un peu paumés. Surtout quand on voit dans certains lieux, d'une paroisse à l'autre, des rites très différents, qui ne ressemblent pas forcément à ce que le missel d'aujourd'hui demande avec raison. Nous sommes dans une époque de subjectivisme inimaginable et les gens qui parlent de l'obéissance sont souvent ceux qui obéissent le moins. C'est un avis personnel. Plus loin, toujours chez Cyrille, vous allez voir, « Élevez vos cœurs. En vérité, il faut à cette heure redoutable, élever notre cœur vers Dieu et non l'abaisser vers la terre et les affaires terrestres. Par la vertu de ces paroles, le prêtre nous enjoint de laisser à cette heure tous les soucis relatifs à la vie, tous les tracas de la maison et d'élever nos cœurs au ciel avec le Dieu de bonté. Vous répondez aussitôt, nous les tournons vers le Seigneur, donnant ainsi votre assentiment à son ordre par la formule d'accord que vous prononcez. Que personne ne soit ainsi disposé que, disant avec sa bouche « nous les tournons vers le Seigneur », il soit par la pensée tout occupé des soucis de cette vie. En tout temps, certes, nous devons penser à Dieu, mais si la faiblesse humaine nous empêche d'y penser sans cesse, c'est à cette heure surtout qu'il faut s'efforcer d'y arriver. » Et c'est le début de la préface, que nous appelons la préface aujourd'hui. Et il poursuit, « Rendons grâce au Seigneur. Réellement, nous devons rendre grâce de ce que, malgré notre indignité, il nous a appelés à une pareille grâce, de ce que, d'ennemis que nous étions, il nous a réconciliés avec lui, de ce qu'il nous a jugés dignes d'avoir l'esprit des fils d'adoption. Vous répondez, c'est digne et juste. En rendant grâce, en effet, nous faisons, nous, un acte digne et juste. Lui, par contre, n'a pas suivi la justice, mais est allé bien au-delà en nous traitant avec bonté et en nous jugeant dignes de si grands biens. » Et puis, il poursuit, « Nous faisons ensuite mention du ciel, de la terre, de la mer, du soleil, de la lune, des astres et de toutes les créatures raisonnables et sans raison, visibles et invisibles, des anges, des archanges, des vertus, des dominations, des principautés, des puissances, des trônes, des chérubins, qui ont quatre visages, reprenant en quelque sorte le chant de David, « Glorifiez avec moi le Seigneur ». Nous faisons ainsi mention des séraphins qu'Isaïe a contemplés dans l'Esprit Saint, formant un cercle autour du trône de Dieu, couvrant leur visage avec leurs ailes, leurs pieds avec deux autres et volant des deux dernières en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées ». Si nous répétons cette louange de Dieu, que nous ont transmises les séraphins, c'est pour nous unir au chant de gloire des milices célestes. Lorsque nous nous sommes sanctifiés par ces hymnes spirituels, nous prions le Dieu de bonté d'envoyer l'Esprit Saint sur les offrandes placées sur l'autel, afin qu'il fasse du pain le corps et du vin le sang du Christ. Car tout ce qui a été touché par l'Esprit Saint est entièrement sanctifié et transformé. Puis il poursuit, et finalement vous reconnaissez à travers tout ce que je vous dis, la préface, l'épiclèse, l'appel de l'Esprit Saint sur les oblats, et puis ensuite nous prions pour nos saints pères, nos saints évêques, c'est la suite du canon, nos évêques défunts, et en général pour tous ceux qui nous ont précédés dans le dernier sommeil, car nous croyons que les âmes de ceux pour qui s'élève notre prière ont le plus grand profit à attendre de la sainte et redoutable victime qui repose sur l'autel. Quand nous offrons nos prières à Dieu pour ceux qui se sont endormis avant nous, même s'ils sont pécheurs, nous offrons le Christ immolé pour nos fautes, apaisant pour eux et pour nous le Dieu de bonté. Ensuite, nous récitons la vénérable prière de famille que le Christ a laissée à ses disciples en donnant à Dieu le nom de Père en toute pureté de conscience en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Nous sommes au IVe siècle, et dans les années 350 en gros, et nous retrouvons tout le canon actuel. Et puis, on en arrive à la communion, et là, c'est magnifique. Approche-toi, sans allonger la paume de la main, sans écarter les doigts, mais ayant bien placé la main gauche sous la droite, comme un trône pour celle qui va recevoir le roi. Reçois dans le creux de la main le corps du Christ en disant « Amen ». Sanctifie tes yeux au contact de ce corps sacré, puis consomme-le en prenant bien garde de n'en rien laisser perdre. Veille à ne pas laisser tomber une miette de ce qui vaut bien plus que l'or et les pierres précieuses. Après avoir communié au corps du Christ, approche-toi maintenant du calice de son sang, n'étends pas les mains, mais incline-toi, dis « Amen » en manière d'adoration et de vénération, et sanctifie-toi en prenant aussi le sang du Christ. Essuie de ta main l'humidité qui reste à tes lèvres et sanctifie en les touchant ton front et tes yeux et tes autres organes des sens. Et en attendant la prière, rends grâce à Dieu qui t'a jugé digne de participer à de pareils mystères. Pardonnez-moi, mais je trouve que c'est sublime. Et c'est bien dommage, justement, qu'on ne cite pas régulièrement aux fidèles ce texte qui montre que la communion dans la main n'est pas une invention, et une invention regrettable de Vatican II. Nous sommes au IVe siècle. C'est magnifique. J'ai eu la chance, personnellement, je me suis rendu compte que c'était une grâce extraordinaire, que au moment, j'étais dans une paroisse à Paris, où le curé prêchait lui-même chaque fois qu'il y avait une modification apportée par la réforme liturgique. Et quand j'ai fait mes études de théologie, je me souvenais qu'il nous avait expliqué les choses ainsi. Je ne savais pas qu'il citait, il ne le disait pas, mais il citait Saint Cyrille de Jérusalem. Et je dois vous dire que personnellement, j'ai communié dans la main dès le premier jour, avec joie et bonheur, et puis émerveillement, parce que c'est magnifique. Alors, c'est peut-être plus traditionnel, voyez, de communier dans la main plutôt qu'autrement. C'est très tardif. Qu'on se le dise. Alors évidemment, alors j'ai tout entendu. Bon, j'étais curé. Combien de fois des personnes très hostiles à cette manière de communier m'ont dit qu'on pouvait emporter les hosties. Alors, pardonnez-moi, j'ai été dans des équipes d'exorcisme et j'ai entendu comment des personnes utilisaient l'Eucharistie après avoir communié sur la langue, m'expliquant qu'ils avalaient toute la salive pour que la langue soit bien sèche, qu'ils se retournaient et qu'ils mettaient l'hostie dans la main pour en faire n'importe quoi. Donc, il faut être très vigilant, bien sûr. Comme évêque, il m'est arrivé d'aller au fond de ma cathédrale pour récupérer l'hostie qu'un garçon avait mis dans sa poche. Il faut, quand on est prêtre, on est responsable de l'Eucharistie, donc il faut être très vigilant, c'est vrai. Mais que ce soit dans la main ou sur la langue, permettez-moi de vous dire, ça ne change rien quand vous avez affaire à des brigands. Il n'y a pas d'autre terme. Et le terme est trop léger. Je reviens à la catéchèse de Cyril. Le pain et le vin te semblent en leur état purement naturel. Ne t'y arrête pas, car selon l'affirmation du maître, c'est le corps et le sang du Christ. Si en effet les sens t'engagent dans leur voie, eh bien que la foi te rassure. Ne tranche pas la question d'après les données du goût, mais hardiment d'après la foi absolue, toi qui as été admis au corps et au sang du Christ. Voyez, une foi juste, magnifique. Sous la figure, un peu plus loin, sous la figure du pain, c'est son corps, et sous celle du vin, c'est son sang que tu reçois, afin qu'ayant pris part au corps et au sang du Christ, tu ne fasses plus qu'un corps et qu'un sang avec lui. C'est ainsi que nous devenons les porte-Christ. Voilà pour Cyril de Jérusalem, en espérant vous avoir donné le goût d'aller le lire. Puis, là, nous sommes en Orient, nous sommes à Jérusalem. Je voudrais maintenant m'intéresser à Ambroise de Milan. Bon, Ambroise de Milan, c'est un évêque qui a marqué sa période, la période où il a vécu. Il a vécu entre, en gros, 340, 339, 397, là nous sommes donc toujours au IVe siècle, mais en Occident, à Milan. Et il est celui qui a été à l'origine de la conversion de saint Augustin, un père de l'Église. Je ne citerai pas saint Augustin, on trouve aussi un tas de choses extraordinaires et merveilleuses chez saint Augustin. Et alors, Ambroise de Milan, voilà ce qu'il écrit à propos de l'Eucharistie. Et c'est intéressant parce que c'est un autre aspect qu'il souligne et qui fait évidemment entièrement partie de l'Eucharistie, c'est la parole de Dieu. En effet, la parole de Dieu est lumière, la parole de Dieu est neige, la parole de Dieu l'emporte encore sur le miel et son rayon, car des lèvres divines coulent des discours plus doux que le miel, et ces paroles limpides tombent à la façon de la neige en souples formules. Il n'y a vraiment de comparable aux neiges que cette parole qui, envoyée du ciel sur terre, a fécondé les champs altérés de nos cœurs. La parole de Dieu, en effet, est la substance vitale dont notre âme se nourrit, dont elle se repaît et sur laquelle elle règle sa conduite. En nous, cette parole augmente lorsque nous la recevons, que nous la saisissons, que nous la comprenons, tout comme augmente la vie qui en résulte. C'est par la parole de Dieu, sous l'action de sa grâce, que notre âme est vivifiée. Et plus loin, « Bois donc l'Ancien Testament afin de boire le Nouveau Testament. » Vous voyez, c'est magnifique là, parce que la réforme liturgique a réintroduit cela. Moi, je suis vieux. C'est un privilège d'être vieux, parce qu'on a une certaine expérience. Et il faut mieux ne pas se plaindre, on a un tas de mots, mais il ne faut pas en parler de ça. Et il faut parler que du positif. Bon, quand j'étais enfant, figurez-vous que j'allais déjà à la messe. Parce que par une pure grâce du ciel, je suis né dans une famille pratiquante. Et j'ai fait mes études dans un collège qui était vraiment catholique. Et grâce à ça, j'ai tenu en théologie dans une période où on enseignait tout sauf la théologie. Eh bien, la réforme liturgique a réintroduit, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, les plus anciens, mais quand on allait à la messe le dimanche, c'était bien, on entendait deux lectures. Et puis quand on allait à la messe en semaine, c'était les deux mêmes lectures si c'était férié toute la semaine. Alors si c'était une fête, on avait un autre texte. Donc, on lisait des fragments de la parole de Dieu. La réforme liturgique a permis que on lise des textes de l'Ancien Testament. On n'en lisait pas, quasiment jamais. Et en plus, dans la réforme liturgique, les quatre évangiles, ils passent totalement. Quand on combine, je ne vais pas entrer dans le détail, les lectures de semaine et les lectures du dimanche. Donc, il y a un enrichissement magnifique et qui nous ramène à ce qui était la tradition ancienne. Je vous avoue que je ne comprends pas qu'on n'ait pas demandé, quelle que soit la manière de célébrer, que nous ayons tous le même lectionnaire issu de la réforme liturgique, que nous envie. Moi, je connais des églises orientales qui n'ont pas encore fait le renouvellement de leur rite, et qui nous envie notre lectionnaire, qui est magnifique. Alors évidemment, on comprend pas tout. Ces jours-ci, on avait Amos, bonne chance au curé d'expliquer en quelques minutes, aux messes de semaine, de quoi il s'agit. Mais en même temps, ça excite notre curiosité, et puis si on est plus que curieux, un peu courageux, on va prendre sa Bible et on voit le texte d'Amos qu'on a entendu, à quoi il correspond. Donc il y a là vraiment un enrichissement qui rejoint ce qui existait dans l'Antiquité chrétienne. Bois donc l'Ancien Testament afin de pouvoir boire le Nouveau Testament. Si on veut comprendre le Nouveau Testament, il faut connaître l'Ancien. Et si on veut comprendre bien l'Ancien, il faut connaître le Nouveau. C'est ce qui nous est donné aujourd'hui. Rendons grâce. À moins de boire le premier, tu ne pourras boire le second. Bois le premier afin d'apaiser ta soif. Bois le second afin de te désaltérer à satiété. Dans l'Ancien Testament, on trouve la componction. Dans le Nouveau, la joie. Bois donc chacun des deux breuvages de l'Ancien et du Nouveau Testament, car dans chacun, tu bois le Christ. Bois le Christ afin de boire ses paroles. Sa parole, c'est l'Ancien Testament. Sa parole, c'est le Nouveau Testament. Elle se boit la Divine Écriture. Elle se dévore la Divine Écriture quand le suc de la parole éternelle descend dans les régions de l'esprit et les facultés de l'âme. Et puis l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole de Dieu. Bois cette parole de Dieu, mais bois-la selon son ordre, d'abord dans l'Ancien Testament. Fais vite pour la boire dans le Nouveau. Bois le Christ qui est la vigne. Bois le Christ car il est la pierre d'où jaillit l'eau. Bois le Christ car il est la source de la vie. Bois le Christ car il est la paix. Bois le Christ afin de pouvoir boire le sang par lequel tu as été racheté. Bois vite donc, afin qu'une grande lumière t'illumine, non pas la lumière quotidienne, non pas celle du jour, non pas celle du soleil, non pas celle de la lune, mais cette lumière qui chasse l'ombre de la mort. La nourriture solide est le corps du Christ, le breuvage généreux est le sang du Christ. Bon, je voulais vous citer un autre passage d'Ambroise de Milan, mais je vois que je n'ai pas pris cette feuille que j'avais photocopiée à votre intention, vous me pardonnerez. Et nous allons du coup aborder Saint Jean de Damas, retourner en Orient. Saint Jean de Damas est un père de l'Église qui a vécu entre 650 et 750, en gros. Il a vécu très âgé. Donc, vous voyez, on est à cheval sur le 7e et le 8e siècle. Et il a écrit un traité de la foi orthodoxe, la foi droite. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le mot orthodoxe. Et alors, il s'exprime ainsi à propos du pain et du vin. Donc, ce que nous appelons, avant la consécration, les oblats. Donc, dans son traité de la foi orthodoxe, Jean de Damas parle déjà de transmutature. Ils sont convertis. Ils le sont, ces oblats, selon un mode qui transcende les forces et les conditions de la nature. Mais c'est le corps même du Seigneur qui nous est donné. Si tu cherches le mode de cette miraculeuse conversion, selon lequel elle se produit, il te suffit d'entendre que c'est par le Saint-Esprit. Et selon le même mode qui a permis au Seigneur de se donner une chair dans le sein de la Sainte Théodokos, la Sainte Mère de Dieu. Nous ne savons rien de plus, sinon que la parole de Dieu est véritable et toute puissante. Quant au mode, à la manière dont ça se réalise, il est impénétrable. Nous sommes dépassés. C'est important parce que, vous voyez, cette approche du mystère de l'Eucharistie, elle est raisonnable, mais en même temps, elle montre que nous sommes dépassés. C'est de l'ordre du miracle. Et nous sommes habitués au miracle, hein, tous les jours. Tous les jours. Et cela, vraiment, je crois que cela peut susciter chez nous un éblouissement merveilleux. Hein. On ne s'habitue pas à l'Eucharistie quand on a conscience de la réalité qui est célébrée. Oui, je vois l'heure, mon Dieu. Alors, ensuite, je vais être amené à conclure. À partir du IXe siècle, va commencer une période où va s'élaborer, je dirais, le dogme de l'Eucharistie. Et ça va durer, en gros, jusqu'au Concile de Trente, au XVIe siècle, à moitié du XVIe siècle. Donc, pendant un peu plus de cinq siècles, on va avoir des approches de théologiens. C'est pas les pères de l'Église. Certains, bon, et malheureusement, bon, il va y avoir la Réforme, et où justement le sens du mystère de l'Eucharistie, pardonnez-moi de parler ainsi, va en prendre un coup, hein, puisque chez les réformateurs, on va mettre en doute, bon, par exemple, la présence réelle. Dans les meilleurs cas, bon, selon les courants du protestantisme, dans les meilleurs cas, on croit que au moment de l'assemblée, le pain et le vin deviennent corps du Christ, mais dès que l'assemblée est terminée, c'est fini. On ne croit pas à la présence réelle. On m'a raconté qu'en Suisse, des pasteurs, grâce au courant œcuménique, arrêtaient, à la suite de la Sainte Cène, ce qu'ils appellent la Sainte Cène, de donner les restes au poulailler. Parce que bon, il n'y a pas de présence réelle, il y en a trop, voilà. Donc, voyez, bon. Or, il faut bien reconnaître, alors je ne veux pas vous faire un cours de théologie, mais que un certain nombre d'approches après cette période patristique, vous voyez, après le Xe siècle, même par des moines, des théologiens, tout ce qu'il y a de plus catholique, ça a ouvert la porte au protestantisme. Donc, finalement, bon, il n'y a pas eu que cela, parce que, permettez-moi de dire qu'il y a eu aussi saint Thomas d'Aquin, et qu'il a élaboré une doctrine très sûre, hein, de ce qu'on appelle la transsubstantiation, mais qui revient à ce que, justement, les pères de l'Église avaient affirmé, c'est-à-dire que on passe du pain, hein, à autre chose, une autre substance. Il y a la substance du pain, et ensuite il y a la substance du corps du Christ. Et c'est là le miracle. Bon, alors, c'est compliqué parce qu'il y a eu le meilleur, et il y a eu aussi le moins bon. Et finalement, à partir du Concile de Trente, le Concile de Trente a vraiment défini ce qu'est l'Eucharistie, alors d'une manière qui est celle du Concile de Trente, enfin, ceux qui ne croient pas que le pain et le vin deviennent le corps du Christ, qu'il soit anathème. Bon. Aujourd'hui, ça nous choque, cette manière de faire, mais en même temps, il faut voir le positif. Le Concile de Trente a bien précisé, justement, ce qu'est l'Eucharistie, et depuis, bon, des papes, et un des derniers, c'est Jean-Paul II, qui a écrit un très beau texte à la fin de son pontificat sur l'Eucharistie, mais ce ne sont que des reprises d'une doctrine qui est maintenant absolument affirmée, et que nous avons en commun avec les églises orientales, qu'elles soient en communion avec Rome ou pas. Et je vous avoue que c'est très bouleversant et crucifiant de penser que nous ne pouvons pas communier ensemble. Et là, c'est parce que nous ne sommes pas encore d'accord en particulier sur le rôle de Pierre, mais nous avons, les orthodoxes et nous, la même foi dans l'Eucharistie. Mais quand on communie, pourquoi? Parce que vous allez peut-être me dire, à juste titre, mais alors pourquoi on ne communie pas puisque, entre nous, puisqu'on a la même foi? Mais oui, mais quand on communie, nous communions au corps du Christ, Jésus. Le corps du Christ, c'est aussi l'Église. Or, si je ne suis pas en communion avec l'Église, et pour l'instant, nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres, avec les orthodoxes. La plupart des orthodoxes, nous confessons, nous avons la même profession de foi, le même credo, les mêmes sacrements, mais nous ne sommes pas en communion les uns avec les autres. Et cela se traduit par le fait que, eh bien, un orthodoxe ne reconnaîtrait pas un évêque catholique. Et un catholique ne reconnaît pas pour son évêque un évêque orthodoxe. Donc la communion n'y est pas, elle n'est pas totale. Et c'est pour cela, et c'est une souffrance, que nous n'arrivons pas pour l'instant à dépasser tant justement qu'il n'y a pas union. Union entre nous. Donc, avec saint Thomas, eh bien, il va y avoir non seulement dans la somme, dans la tertia pars, il y a toute une série de questions, une dizaine de questions qui précisent ce qu'est l'Eucharistie, et ça va devenir la théologie de l'Église. Et puis, il faut savoir que le pape de l'époque a demandé à saint Thomas de décrire l'office du Saint-Sacrement. Donc, les hymnes du Saint-Sacrement sont, de la fête du Saint-Sacrement, sont de saint Thomas, et c'est de la poésie, mais une poésie, justement, qui traduit admirablement le contenu du dogme, de la foi de l'Église en l'Eucharistie. Je vous lis, par exemple, une antienne de l'office du Saint-Sacrement, vous allez voir à quel point une antienne, hein, une antienne qui a introduit, donc, une lecture, un psaume. Banquet très, mais c'est complet comme c'est pas permis. Je sais pas comment il arrivait, c'est saint Thomas, à penser à tout en quelques lignes, quatre lignes. Banquet très saint, où le Christ est reçu en nourriture. Donc, repas, nourriture. Le mémorial de sa passion est célébré. Le sacrifice est évoqué. Le sacrifice de la croix. Notre âme est remplie de grâce. À chaque Eucharistie, par la communion, la vie divine nous est transmise. Et le gage de la gloire future est déjà donné. Hein? Par ce repas, par cette communion, c'est une anticipation de la béatitude éternelle à laquelle nous avons accès. Vous voyez, en quatre lignes, il y a tout. Donc tout est dit. Nourriture, actualisation du sacrifice de la croix, transmission de la vie divine, annonce de la béatitude éternelle. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous inviter à vous émerveiller face à cette transmission de la foi de l'Église en l'Eucharistie depuis les origines jusqu'à nos jours, de ce rite laissé par le Christ qui avait été très longtemps préparé dans l'Ancienne Alliance. Vous voyez, la Pâque juive remonte à la sortie d'Égypte, 13 siècles avant le Christ, en gros. Et avant, il y avait déjà, comme je l'ai dit, la fête du printemps où on offrait les prémices, on offrait un agneau. Donc, il y a vraiment des préparations très longues. Et maintenant, nous, depuis 20 siècles, eh bien, nous célébrons l'Eucharistie avec une continuité que j'espère vous avoir fait percevoir. Donc, les pères de l'Église, et je n'en ai cité que quelques-uns, il y en a beaucoup plus, ont contribué à permettre aux croyants d'approcher du mystère de la présence réelle du Sauveur dans l'Eucharistie, d'en saisir la grandeur et de favoriser chez les fidèles l'acte de foi. Et enfin, je voudrais en conclusion, vous lire le dernier paragraphe d'un très beau livre que j'ai bien utilisé, qui s'appelle « Le mystère de l'Eucharistie » et qui a été écrit par la sœur Louise-Marie Antoniotti, qui est une dominicaine, qui est une moniale dominicaine, qui est une théologienne et qui a beaucoup enseigné, pas seulement, enfin surtout chez, dans les monastères de moniales dominicaines. Et elle termine son ouvrage ainsi. Sous l'inspiration de la Sainte Écriture, transmise par la Sainte Tradition et dans son élan, nous découvrons que la célébration, l'adoration et la contemplation du mystère de l'Eucharistie donnent croissance à l'Église, à chacun des membres du corps mystique et au corps tout entier, peuple de Dieu, tourné vers l'ultime retour du Seigneur Jésus à la fin des temps, famille bien-aimée des enfants de Dieu qui n'ont qu'un cœur et qu'une âme dans la louange de la gloire de leur Père des cieux. Amen. Qu'il en soit ainsi.